Géopolitique.
François Mazet.
Bonjour et bienvenue dans cette édition de Géopolitique, le débat. Annoncé dans la foulée de l'émotion causée par les attentats à Paris, un grand sommet sur les politiques antiterroristes s'est tenu pendant 3 jours à Washington. La réponse militaire ne suffit pas, ont dit les représentants de la 60aine de pays participants. Détection en amont de la radicalisation, prise en charge des combattants à leur retour, politique pénale, sociale, coopération internationale. Ils ont échangé avec des acteurs religieux, des universitaires, des membres de la société civile sur les moyens de lutter contre l'expansion des groupes djihadistes, leur idéologie, leur propagande, leur capacité de recrutement. Alors, quelle stratégie peut-on adopter pour minimiser le risque terroriste, empêcher autant que possible des attaques comme à Ottawa, comme à Sydney, à Paris ou à Copenhague ces derniers mois? Pour en parler, 3 invités. Alain Rodier, bonjour.
Bonjour.
Ancien officier supérieur au sein des services de renseignement français, vous êtes directeur de recherche sur les questions de terrorisme et de criminalité organisée au sein du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement. Vous avez publié plusieurs ouvrages et articles, notamment sur Al-Qaïda, dernièrement un livre numérique, Grand Angle sur le terrorisme. Bonjour Antoine Mégy.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit à l'université de Rouen, vous dirigez la revue Politique européenne et vous travaillez plus particulièrement sur les politiques antiterroristes du continent. Et Mathieu Guider, vous enseignez à l'université Toulouse de Jean Jaurès, vous êtes spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain. Votre dernier ouvrage, État du monde arabe. Bonjour.
Bonjour.
Mathieu Guider, à l'automne 2001, George W. Bush disait devant le Congrès américain que le seul moyen de détruire le terrorisme, c'était de l'attaquer à la racine. Plus de 13 ans après, à Washington, Barack Obama a mis en avant les initiatives locales, le rôle des communautés, des structures de proximité de la société civile. Est-ce qu'on a enfin compris que le terrorisme ne se traite pas seulement militairement, mais qu'il s'agit d'un problème général qui demande des réponses tout autant politiques, sociales que sécuritaires ?
Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que le président Obama a fait des interventions très intéressantes qui remettent en perspective le phénomène terroriste au cours de la décennie écoulée. Mais de là à dire que tout le monde a compris les problèmes, les fondements, les soubassements, je crois qu'on en est très loin. Et d'ailleurs, la contestation du discours d'Obama aujourd'hui aux États-Unis en est la meilleure preuve. On est encore sur des positions assez tranchées concernant le phénomène, ses raisons, ses mobiles et ses motivations.
Ce sommet marque un changement dans la manière des pays occidentaux d'appréhender la question du terrorisme ou non, Alain Rodier ?
Non, je ne pense pas que ça marque un grand changement. La coopération antiterroriste existait depuis des années, c'est donc ce n'est pas nouveau. Cela dit, un sommet de ce type est une bonne chose à la base. Maintenant, ce qui va en sortir, et je partage tout à fait le point de vue de Mathieu Guider, ce qui va en sortir, il faut pas être trop pressé et trop optimiste dans cette affaire-là, d'autant que ce sommet s'appelait lutte contre l'extrémisme violent. Alors, une fois de plus, on ne désigne pas l'adversaire. Et ça, c'est tout de même dommage, parce que la première chose à faire quand on lutte contre un phénomène, c'est de le désigner. Alors et de savoir qui est-ce.
Vous préférez parler de salafisme djihadiste.
Voilà, pour moi, c'est le salafisme djihadiste. C'est donc une toute petite partie de l'islam qui est en guerre, un, contre les chiites, parce que je rappelle que c'est d'abord une guerre interne à l'islam, chiite contre sunnite, et à l'intérieur même des sunnites, donc c'est les salafistes djihadistes, eux-mêmes séparés en 2 factions, c'est-à-dire Al-Qaïda et l'État islamique, et contre tous les gouvernants, à peu près, de la planète, et les gouvernants musulmans, considérés comme des apostats, et contre tous les musulmans qui sont considérés comme trop modérés, parce qu'ils refusent de rejoindre soit Al-Qaïda, soit l'État islamique. Donc nous avons vraiment un phénomène interne à l'islam, une guerre à l'intérieur de l'islam, et c'est pour ça que je réfute aussi une phrase qui parle de conflit des civilisations. Non, c'est d'abord un conflit interne à l'islam, et ensuite, c'est vrai qu'il s'attaque, bien sûr, mais en deuxième adversaire, en ennemi lointain, comme il l'appelle, aux juifs et aux croisés.
Antoine Mégy, votre avis sur ce sommet ? Changement de langage, pas nécessairement de politique ?
Alors, je pense que c'est plutôt, effectivement, comme le dit les intervenants précédents, une poursuite, en fait, de ce qui existe, notamment depuis 2001, bien évidemment, où on avait déjà eu ces sommets transatlantiques, voire internationaux. Finalement, les décisions, ou en tout cas les annonces qui sont faites lors de ces sommets, sont des annonces qui révèlent au public des discussions qui sont déjà en cours depuis de nombreuses années. On pense, par exemple, à la question des opérateurs Internet, Internet ou encore du fameux système PNR qu'on présente au niveau européen comme une nouveauté, sauf qu'il est discuté depuis 2011 dans le cadre européen et qu'il est discuté depuis 2001-2004 dans la relation transatlantique avec des moments de crispation, notamment politique et diplomatique, entre la Commission européenne, le Parlement européen et les autorités américaines. Donc, ce genre de sommet, ce sont à la fois des sommets qui sont importants d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue médiatique, et sur la question du terrorisme, la dimension médiatique est centrale, et ce sont également des sommets qui peuvent être importants d'un point de vue institutionnel parce qu'ils accélèrent finalement des décisions ou des procédures décisionnelles. Je pense par exemple au PNR européen avec notamment la France qui met une pression importante sur le Parlement européen, qui a accepté après plusieurs années de discussion, notamment sur la question du respect des droits de l'homme, le Parlement européen a accepté d'adopter ce système PNR avant 2015. On verra ce qu'il en est, mais voilà, ce type de sommets sont plutôt des moments d'accélération de l'agenda politique.
On a beaucoup parlé de la lutte idéologique contre les groupes terroristes, contre leur propagande, notamment sur Internet, ce qu'on appelle parfois un appel du romantisme djihadiste en ligne. Est-ce que les campagnes de communication institutionnelle, Mathieu Guider, comme on a vu celle du gouvernement français après les attentats de Paris avec le hashtag, le mot dièse, stop djihadisme, est-ce que ça peut avoir un effet positif ou est-ce qu'on est très loin du compte face à des groupes radicaux qui sont rompus à ces moyens de communication modernes?
On est très loin du compte, bien évidemment. Ces campagnes de communication sont des campagnes de communication institutionnelles qui sont d'information du grand public, qui sont nécessaires, mais on est très très loin de la lutte réelle contre le djihadisme ou contre la propagande de ce type-là.
Il faut développer des contre-discours ?
Non, je crois que c'est beaucoup plus grave que cela. L'Internet aujourd'hui n'est pas régulé. Et il n'y a pas que le djihadisme qui en profite. La grande criminalité en profite, les ventes d'armes. Vous avez des discours, vous avez de la diffamation, du dénigrement, de l'atteinte à la réputation. L'Internet aujourd'hui, c'est la jungle. Il y a un manque cruel de régulation. Et la question de l'anonymat sur Internet également est une grave atteinte à la chose qui enlève toute responsabilité des individus. Il y a une déresponsabilisation juridique et judiciaire sur l'Internet qui fait que on voit proliférer un certain nombre de discours racistes, antisémites, négationnistes et djihadistes. Pour l'instant, on s'occupe de ce discours-là et de cette propagande djihadiste, mais le problème est beaucoup plus grave. Il faudra probablement que la communauté internationale s'y attelle sérieusement en disant que la responsabilité juridique des individus qui s'opposent dans la réalité doit aussi se poser dans le monde virtuel. Et l'on doit pouvoir être responsable de ses actes, de ses paroles dans cela. On est encore très très loin de cela.
Alors, Audi, Internet, c'est le nouveau front, c'est le nouveau terrain de jeu des services de renseignement.
Mais attention tout de même aussi, Internet, c'est un moyen, c'est comme le terrorisme. Le terrorisme, un mouvement terroriste, pour moi, ça veut rien dire. C'est un mouvement séparatiste, politique, religieux, qui utilise le terrorisme. Bon, la même chose, Internet est un moyen, et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Internet est utilisé, par exemple, par la pédophilie. Ça a été bien, relativement bien combattu, mais enfin bon, c'est pas parfait, mais ça bien, marche pas mal. Et le crime organisé l'utilise énormément, particulièrement dans le domaine de la prostitution, mais pas que ça. Donc dans beaucoup d'autres domaines, et on pourrait faire une jonction d'ailleurs entre le crime organisé et le phénomène terroriste, parce qu'il y a interpénétration entre les deux. Cela dit, il est vrai qu'à l'heure actuelle, je ne suis pas un expert en informatique. Je crois que les problèmes techniques pour pouvoir le réguler sont énormes. Bon, mais il est vrai qu'il faut aller dans cette direction.
Antoine Mégy, est-ce que Internet, c'est pas justement le lieu où la coopération européenne pourrait être renforcée ?
Alors, je pense que Internet doit être vu plutôt comme un espace médiatique et, on peut le dire depuis tout à l'heure, dans le terrorisme, et c'est peut-être une de ses particularités fortes, c'est cette puissance des médias. Et Internet a changé le rapport aux médias dans la question du terrorisme. Auparavant, les groupes terroristes envoyaient une déclaration à certains journalistes et il y avait à ce moment-là une revendication officielle. Aujourd'hui, Internet est utilisé en amont par les groupes terroristes, utilisé après les attentats, donc à la fois comme un moyen de propagande, mais aussi comme un moyen, finalement, de revendication. Et ce qui change, c'est également l'utilisation, et là je reviendrai sur ce point de Internet comme instrument. En fait, on a un rapport qui change parce que les autorités politiques et les autorités de sécurité utilisent eux-mêmes Internet dans deux directions, à la fois comme un moyen de sécurisation, de surveillance, d'arrestation. Et on voit bien que depuis 2003, en France, on a une focalisation sur le contrôle d'Internet, sur la coopération avec les opérateurs Internet. C'est d'ailleurs le but du voyage
de Bernard Cazeneuve dans la Silicon Valley.
Voilà, dans la Silicon Valley. Mais Internet, c'est aussi un moyen de communication pour les autorités politiques et les autorités de sécurité. Depuis une dizaine d'années, on n'a jamais vu autant de déclarations officielles des représentants des services de renseignement, des magistrats antiterroristes, qui finalement construisent un discours sur Internet également. Et donc Internet devient un espace de conflit finalement entre les autorités politiques, les autorités de sécurité et les groupes terroristes. Est-ce que ça a un effet? Ça, c'est encore un peu tôt pour le dire. Mais je pense que Internet est un nouvel espace du terrorisme, un espace à la fois de sécurité, mais aussi de propagande, qu'elle soit pour les terroristes ou de discours de conciliation de la part des autorités politiques.
C'est réaliste de dire qu'on peut couper les moyens de transmission des recruteurs du djihad en ligne?
Si on regarde à l'échelle du monde, c'est réaliste de pouvoir couper Internet. On le voit en Chine, on le voit dans certains États. Maintenant, la question qui se pose, et ça va aussi bien pour Internet que pour les procédures judiciaires, c'est toujours cette question, jusqu'où faut-il réguler, jusqu'où faut-il interdire, et dans quelle mesure les États et les opérateurs, qui sont quand même dans une logique commerciale, peuvent s'entendre sur ce niveau de régulation et d'interdiction. Donc on voit que les objectifs de sécurité, les objectifs également de diffusion et donc les objectifs commerciaux n'ont pas toujours de point de convergence. Je pense qu'actuellement, étant donné le contexte général, étant donné les pressions politiques, vraisemblablement les opérateurs Internet vont aller dans le sens d'une plus grande régulation. Mais jusqu'où? Et puis, ce qui fait la particularité d'Internet, c'est que c'est un espace qui est toujours en évolution et les transformations technologiques, techniques, entraîne alors des utilisations différentes. Donc on est toujours dans une sorte de course-poursuite, c'est ce qui fait d'ailleurs le centre des discours des autorités politiques et de sécurité. C'est toujours cette idée que les autorités politiques et les autorités de sécurité ont du retard sur les groupes, leur utilisation à la fois d'Internet ou d'autres instruments de propagande.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors après les attentats, notamment à Paris, il y a eu beaucoup de discours annonçant de nouvelles mesures. Est-ce qu'il y a une véritable inflexion sécuritaire en Europe ces dernières années?
Alors c'est toujours très compliqué parce que la question de ces dernières années pose finalement la temporalité. Je pense que c'est une tendance lourde du développement des espaces de sécurité, notamment en Europe. Et là, c'est un point important à souligner. C'est qu'on a tendance souvent à dire que l'Europe suit les États-Unis dans tout ce qui est transformation des dispositifs de sécurité. Oui, effectivement, il y a une influence des États-Unis. On l'a vu après le 11 septembre sur des domaines comme les PNR ou la surveillance des transactions interbancaires. Mais l'Europe a un mécanisme de transformation de son espace de sécurité depuis les années 80-90. On a créé des institutions, Europol, Eurojust, de nouvelles procédures au nom de la lutte contre le terrorisme, le mandat d'arrêt européen. Et donc, l'Europe finalement se développe effectivement avec un espace de sécurité de plus en plus renforcé.
Est-ce que ça fonctionne bien, Europol, Eurojust?
Alors, Europol et Eurojust fonctionnent. Il y a des transformations qui existent et qui se sont fait jour depuis les années 2010. Mais le problème d'Europol et d'Eurojust, c'est qu'ils dépendent des autorités nationales. Finalement, Europol et Eurojust ne fonctionnent que si un magistrat ou un policier français, belge, italien ou allemand accepte de faire transiter des informations. Donc tout cela prend du temps, tout cela concerne des pratiques, et là, je pense que des intervenants sera mieux placé que moi pour le dire, mais la question du renseignement, c'est le partage. Or, par principe, un renseignement, il ne se partage pas avec tout le monde. Et lorsque l'on veut mettre en place des bases de données européennes, voire internationales, il y a toujours cette question de la confiance, à qui on donne le renseignement, comment il va être traité, et surtout, comment on encadre finalement cet échange de renseignements.
Alors, Audier, est-ce qu'on se fait confiance entre services de sécurité?
Certainement pas. De toute façon, ça marche très bien en bilatéral, généralement, mais dès qu'on passe...
Bilatéral entre États.
Entre deux services.
Entre deux services.
Ça se passe généralement très bien, et c'est pas nouveau, surtout sur des sujets comme le terrorisme ou le crime organisé. Bon, si on bascule un petit peu sur l'industriel et le commercial, vous comprenez que les problèmes augmentent. Bon, cela dit, ça existe tout de même, et puis bon, il faut sortir du cadre européen et américain. Les premiers pays, j'en parlais tout à l'heure, qui sont concernés, c'est les pays musulmans. musulmans. Et donc les échanges avec eux sont généralement excellents, mais ils doivent être encore renforcés. Il va avoir encore des visites en France très bientôt, mais là je parle sous le contrôle de Mathieu Guider. Il va avoir des responsables de services de renseignement des différents États qui vont venir pour encore renforcer ces liens. Mais ils sont absolument indispensables. Et puis alors, on a tout de même un grand problème pour le moment. Il y a plusieurs acteurs qui sont extrêmement importants dans la lutte antiterroriste. C'est la Russie, l'Iran et le régime syrien. Alors, quid ? Qu'est-ce qu'on va faire ?
Mathieu Guider, les pays musulmans qui sont en première ligne sur la question du djihad, je pense notamment à la Jordanie, à la Tunisie, qui sont les deux principaux pourvoyeurs, entre guillemets, de combattants étrangers. Est-ce qu'ils collaborent pleinement avec les pays occidentaux ?
Alors, il faut d'abord rappeler ce qui vient d'être dit. Le terrorisme touche dans une infime partie les pays occidentaux. Pour quelques victimes en Occident, nous avons des dizaines, des centaines de victimes tous les mois dans les pays musulmans. Donc il faut vraiment sortir de l'européocentrisme, voire de l'occidentalocentrisme dans lequel nous sommes sur cette affaire, et faire ce à quoi a appelé le président Obama, aider les pays musulmans à lutter contre leur problème, qui est un véritable problème interne aux musulmans. C'est une guerre de religion quasiment qui se passe aujourd'hui entre l'islam, à l'intérieur de l'islam. Et c'est à ces pays-là qu'il faut aider. Il faut aider en particulier les régimes qui sont modérés, qui ne sont pas ceux dont on a parlé, la Tunisie. La Tunisie subit de plein fouet là, le retour des combattants syriens sur son territoire. Chaque mois quasiment, ou chaque semaine, il y a des soldats, il y a de la gendarmerie qui sont tués. La Jordanie également a subi de plein fouet également le retour à la fois des réfugiés et de l'État islamique. Ces pays sont demandeurs, ils sont très partageurs de leurs renseignements parce qu'ils savent que pour eux c'est vital. On le sait, c'est tout à fait réel. La question qui est derrière, c'est la question politique. Parce que, comme on le sait, on a collaboré pendant des années avec des régimes qui étaient relativement stables, le régime Moubarak, le régime de Ben Ali et d'autres régimes encore. Et puis, bien, avec le recul, le reproche qui a été fait à l'Occident tout de même, c'est d'avoir contribué à renforcer des dictatures. Alors que la collaboration renseignement, la collaboration anti-islamiste, la collaboration anti-jihadiste était excellentissime à ce moment-là. Donc, on est dans cette approche, dans ce paradoxe où la sécurité des Européens dépend d'une collaboration avec des régimes politiques qui ne sont pas toujours fréquentables, voire au regard de l'histoire, qui peuvent être problématiques. L'exemple typique, c'est l'exemple de l'Égypte aujourd'hui. L'Égypte est un acteur central dans le monde arabe. Il est menacé à sa frontière, et avec Israël en particulier, par une filiale de l'État islamique, Ansar Bayt al-Maqdis, qui est devenu filiale de l'État islamique, et à sa gauche, à la Libye également, par une branche de l'État islamique à Derna. Bon, eh bien, cet État-là, malgré tout, eh bien, arrive au bout d'un processus très compliqué de destitution d'un président élu, avec des élections, avec un général à sa tête qui fait des condamnations massives, avec des condamnations à mort de centaines d'individus à chaque fois. Et on le sait, donc notre collaboration avec ce type de régime peut nous être reprochée par la suite. C'est par hasard, cela tourne mal. Parce que rien ne dit que ces pays sont stabilisés sur le très long terme. On est dans cette problématique-là où notre sécurité dépend aujourd'hui d'une incertitude politique dans ces pays-là.
Il y a aussi la question de la Turquie, Mathieu Guider, qui est directement frontalière de deux pays qui sont en grande difficulté, la Syrie et l'Irak. Et on a l'impression que les Turcs regardent un petit peu ailleurs.
Alors oui, alors la Turquie, c'est un exemple type de comment nos intérêts communs, la Turquie fait partie de l'OTAN tout de même, ce n'est pas rien, on est vraiment dans le commandement de l'OTAN, eh bien où le point de vue peut différer complètement. Les Turcs estiment que le principal problème, ce n'est absolument pas l'État islamique pour eux, c'est le régime syrien. Ils estiment que c'est le régime syrien qui a créé ces groupes-là. C'est parce que le régime syrien s'est maintenu pendant des années que les groupes étaient là. Et donc, eux, ils continuent à vouloir lutter contre le régime syrien. Et cette divergence de point de vue concernant l'État islamique fait qu'aujourd'hui, on a une coopération très compliquée avec les Turcs.
La Turquie, la Syrie, la coopération internationale contre les groupes terroristes. On y revient dans 10 minutes dans la deuxième partie de Géopolitique, juste après le journal.
Géopolitique.
François Mazet.
Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie de Géopolitique, le débat consacré aujourd'hui aux stratégies internationales de lutte contre les groupes terroristes. Juste avant la pause, nous parlions du rôle de la Turquie. La Turquie, c'est le Moyen-Orient, c'est déjà presque l'Europe. Antoine Mégy, comment fonctionne sur la question sécuritaire la Turquie et les pays européens ?
Eh bien, un peu de la même manière que fonctionne la coopération plus globale entre l'Europe et la Turquie, c'est-à-dire de façon très ambiguë. Hein, ça fait depuis les années 60 que la Turquie est candidate à l'Union européenne. Donc, on peut penser que les relations diplomatiques entre la Turquie et l'Europe alterne finalement entre relations plutôt proches, relations plutôt tendues. L'exemple peut-être le plus marquant, le plus frappant, c'est cette fameuse affaire des loupés de renvoyer des djihadistes français qui devaient arriver à Paris mais qui finalement arrivent à Marseille. En fait, on a un problème de point de vue entre l'Europe et la Turquie. La Turquie a une politique qui s'inscrit, et c'est très important de le rappeler, comme cela a été fait tout à l'heure, dans l'OTAN. Donc c'est un allié central des différents membres de l'OTAN. C'est un membre singulier de cette organisation. Et en même temps, la Turquie a des intérêts propres, et ces intérêts propres, ils se focalisent depuis une dizaine d'années sur la question kurde. Or, il s'avère que aujourd'hui, les Kurdes, voire le Kurdistan, est-ce qu'il existe véritablement ? On a tendance aujourd'hui à dire qu'il existe, le Kurdistan est devenu un acteur allié des Occidentaux, des Européens, dans la guerre contre l'État islamique. Donc, les relations sont très ambiguës. On a besoin de la Turquie. La Turquie a également besoin de l'Europe et plus globalement de l'OTAN et des États-Unis. Et en même temps, les objectifs sont parfois très différents. Alors, on sait que l'Europe joue un rôle important, notamment dans tout ce qui est procédure judiciaire à travers des accords de partenariat entre l'Europe et la Turquie pour justement essayer d'arriver à une convergence des procédures judiciaires. Mais là, l'Europe se trouve face à une situation un peu complexe. À la fois, elle peut dénoncer l'état policier, l'état de renseignement turc lorsqu'il s'agit d'arrêter des manifestants pro-kurdes ou des manifestants pro-démocratie. Et en même temps, elle sollicite l'État turc pour justement des renseignements sur la question du djihadisme international. Donc l'Europe a du mal à définir une position vis-à-vis de la Turquie, mais c'est plus global, c'est pas juste sur la question de sécurité, c'est plus globalement sur la question de la place de la Turquie dans l'Europe ou en dehors de l'Europe.
Alors Audier, cette place de la Turquie, c'est quand même utile, hein, cette sorte de diplomatie parallèle via les services de renseignement.
Ah ben c'est indispensable. Bon, pour revenir sur l'incident qui a eu lieu, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est une erreur de fonctionnaire, je dirais, avec un retard à l'allumage.
Oui, si je peux me permettre, vous avez tout à fait raison, c'est un problème de pratique. En fait, on est loin du politique et du diplomatique. C'est juste des pratiques de coopération qui ne sont pas intégrées par les différents services. C'est pas rodé parce que on n'a pas l'habitude, finalement, de faire ce type d'échange. Mais il y a d'autres échanges qui sont plus rodés.
Alors, Olivier.
Oui, alors, pour revenir au sujet turc, donc, leur souci numéro un, c'est les Kurdes. Et il faut remarquer tout de même que l'Occident a applaudi et appuyé le pays grec dans son fameux combat de Kobané, combat héroïque, mais on a comparé à Stalingrad. Bon, sauf que c'était 100 fois moins important que Stalingrad, voire 1000 fois moins dans les nombres. Mais c'était héroïque, c'est vrai. Mais cela dit, les défenseurs de Kobané, c'est des gens du pays grec qui sont extrêmement proches du PKK, mouvement donc déclaré comme terroriste par les Turcs et encore considéré comme terroriste théoriquement par les instances européennes. Il n'a pas encore été déclassé. Donc, on comprend que ce jeu ambivalent plutôt de l'Europe, en réalité, enfin de l'Europe et de l'Occident, vis-à-vis de ces combattants qu'on a utilisés un petit peu contre l'État islamique. Et donc, on peut comprendre la position difficile dans laquelle Ankara se retrouve vis-à-vis de cette entité. Parce que s'ils ont accepté un Kurdistan au nord-Irak, pour le moment, pour eux, il est hors de question d'accepter un Kurdistan indépendant au nord de la Syrie. Et ça, pour eux, c'est au jour d'aujourd'hui, c'est impossible. Je rappelle également qu'ils ont entamé des négociations avec le PKK via Abdullah Öcalan, qui est toujours incarcéré, que ces négociations menées par les services secrets, mais maintenant qui sont quasi officielles, ils espèrent bien qu'elles vont déboucher, mais l'affaire syrienne est venue compliquer
le processus de discussion. Alors derrière cela, Mathieu Guider, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, sur la question kurde, il faut rappeler que le Kurdistan est un État quasiment autonome. Le Kurdistan aujourd'hui fonctionne comme un État de fait dans l'État irakien. Le Kurdistan irakien doit à l'État central irakien 31 milliards de pétrole. Ils vendent son pétrole, ils concluent des accords, ils font tout. Alors on n'en parle pas parce qu'on se dit, tiens, l'État islamique est en train de créer son État, mais on oublie de dire qu'en fait, de fait, il existe déjà un État qui est le Kurdistan irakien. Mais ce sont également, là encore, les aléas de l'histoire, les ambiguïtés des politiques étrangères qui nourrissent, là encore, le terrorisme, qui nourrissent ces groupes insurrectionnels.
Alors justement, la question de la politique étrangère de la France et des pays européens, c'est quelque chose qui nourrit une radicalisation d'une certaine partie de la population. Est-ce que vous faites partie de ceux, Mathieu Guidert, qui considèrent que la France doit se resituer complètement sur la scène internationale? C'est ce que disait récemment un rapport remis au gouvernement français.
Bon, il ne s'agit pas de faire de l'autoflagellation. Mais ça serait bien quand même de relayer l'avis d'un homme politique de premier ordre français, Dominique de Villepin, qui n'arrête pas de répéter, depuis le début de nos interventions, que nos interventions militaires, il l'a dit après d'autres officiels américains, d'autres officiels britanniques, qui sont arrivés à la conclusion qu'à chaque fois qu'il y a une intervention militaire occidentale, en règle générale, elle aboutit à pire que ce qu'il y avait avant, et en règle générale, elle nourrit des groupes djihadistes et elle crée un foyer djihadiste. On le sait, et donc ça c'est avéré aujourd'hui. Donc ce n'est plus aux Occidentaux d'intervenir militairement dans les pays musulmans.
Alors justement, est-ce que au moment où l'Égypte frappe en Libye, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça marque pour vous un retour des pays arabes, une prise de conscience?
Non, là encore, parce que l'Égypte fait cavalier seul sur cette affaire-là. Elle a la Ligue arabe contre elle, qui ne veut pas d'une intervention militaire. Elle a surtout les deux voisins immédiats, qui sont la Tunisie et l'Algérie, qui subissent de plein fouet la situation libyenne, qui sont contre radicalement toute intervention militaire de qui que ce soit en Libye, en raison du clivage extrême des forces politiques à l'intérieur de la Libye aujourd'hui. Il n'y en a pas un acteur vraiment réel aujourd'hui à se tenir en Libye. Et donc là encore, il faut faire très attention lorsqu'on fait des interventions militaires ou lorsqu'on appelle à des interventions militaires. Et c'est là le sens aujourd'hui, je crois, de ce terrorisme. Ce terrorisme se nourrit également d'un anti-occidentalisme, prioritairement dans l'anti-américanisme, et qui se focalise de plus en plus sur les Français, ce qui serait quand même aberrant, puisqu'on n'est pas particulièrement un acteur global sur ces questions-là, on n'a pas les moyens d'être un acteur global sur la question du terrorisme, et aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment, on nous fait jouer, en tout cas, le retrait américain de la scène internationale relatif sur ces questions-là, avec une doctrine très forte qui est « lead from behind », commander de l'arrière, fait que la France est au premier plan aujourd'hui, ce qui est une aberration sur ces questions-là.
Alain Rodier.
Oui, je partage tout à fait ce point de vue, et en particulier en Libye, bon, c'est pire que la Somalie. Il faut bien voir qu'en Somalie, il y a tout de même un gouvernement reconnu, des forces africaines sur place. Voilà, mais la Libye, c'est deux gouvernements qui n'ont aucun pouvoir, sauf sur la zone où ils sont, Tobrouk et Tripoli, et encore, et des petits chefs de guerre qui sont maîtres d'un bout de quartier, d'un bout de province, etc., et qui font plus les mafias qui sont revenus, parce que je rappelle que tout de même la Libye maintenant est un point de passage absolument prépondérant pour la drogue et pour les clandestins, plus on rajoute à tout ça tous les mouvements terroristes qui viennent s'y implanter, donc c'est devenu totalement incontrôlable. Et donc c'est tout de même la conclusion d'une intervention militaire faite dans le cadre de l'ONU qui a amené cette catastrophe.
J'aimerais qu'on revienne sur la question de la radicalisation dans l'espace occidental, notamment en Europe, dans un lieu qui est symbolique, ce sont les prisons. On parle de quartiers séparés pour les terroristes condamnés. Mathieu Guidert, est-ce que ça permettrait de résoudre une partie du problème?
Alors, la France était en retard sur ces questions-là, d'abord. On n'est pas les premiers. L'Espagne avait mis un programme dès 2004 pour la déradicalisation dans les prisons. La France découvre deux thématiques, la radicalisation et la déradicalisation. C'est quand même embêtant avec l'historique qu'on a avec le terrorisme. Aujourd'hui, le choix qui a été fait politique récemment de regrouper ces quartiers spécialisés pour la radicalisation, c'est un choix politique parmi d'autres. Ce n'est pas le choix qui a été fait par tous les pays. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir un contrôle réel, et je ne suis pas sûr que ces centres de déradicalisation ne vont pas devenir un centre d'échange ou de formation de communautés djihadistes à l'intérieur des prisons. Je ne sais pas comment on va gérer cela sur le long terme, parce que je rappelle qu'on ne peut pas maintenir quelqu'un en prison à vie et qu'on n'a plus la peine de mort. Donc je ne vois pas comment, par la suite, on va déradicaliser tout cela à la sortie de prison. On est face à une question réelle, d'autant plus qu'on ne se donne pas les moyens que sont donnés d'autres pays sur ces questions-là, à savoir l'utilisation des repentis, l'infiltration de ces groupes-là pour leur retournement et des techniques de déradicalisation qui sont des techniques de manipulation. Nous n'avons pas encore en France l'expertise ni les compétences pour le faire de façon sérieuse et durable.
Allez-y Alain Rodier.
Oui, juste un exemple où là il y a les moyens et l'expertise, c'est en Arabie Saoudite, parce que là ils ont effectivement tenté de déradicaliser des anciens de Guantanamo, des anciens pensionnaires de Guantanamo, mais malgré les moyens énormes qu'ils ont mis dans cette affaire, c'est-à-dire qu'ils proposaient quoi, villa, voiture, épouse, même assez, avec tous les moyens qui allaient à ces personnes, eh bien, il y a tout de même un taux d'échec énorme. Bon, le pourcentage, on ne les a pas exactement, mais on parle tout de même de 30% qui sont retournés au djihad, malgré ce programme, avec des moyens, avec de l'expérience. Donc, c'est pour ça que c'est assez inquiétant.
Antoine Mégis, ces programmes de déradicalisation en Europe, c'est quelque chose qui est encore balbutiant, hein.
Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est encore balbutiant, mais le fait que les terroristes soient emprisonnés comme des prisonniers de droit commun doit se comprendre par l'histoire, hein, de la lutte antiterrorisme, notamment en France. L'idée, c'est de ne pas reconnaître ce statut de prisonnier politique, parce que ça serait reconnaître les justifications. Et là, c'est une transformation qui a été produite à la fin des années 70, où on a décidé que la lutte antiterroriste devait être une lutte judiciaire classique de droit commun. Or, il s'est avéré que très rapidement, hein, on a refait une lutte antiterroriste judiciaire ad hoc, c'est-à-dire spécifique, dérogatoire au droit commun. Je prendrai un exemple qui n'a pas grand-chose à voir avec ce dont on parle aujourd'hui, le phénomène du djihadisme international, mais la question des Corses, la question des Basques, elle se posait aussi en termes de qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Alors, on les envoyait partout, assez loin d'ailleurs du Pays Basque, assez loin de la Corse, et tout cela focalisait alors une partie des revendications des familles, mais aussi des groupes terroristes, en disant, une des premières revendications que l'on a, c'est le retour des prisonniers politiques, donc la reconnaissance des prisonniers politiques, dans des prisons spécifiques. Et donc l'État français est face là à une situation complexe. Si il met en place ce système de prison spécifique, à ce moment-là, il peut y avoir ce discours de dire, ben, comme nous sommes emprisonnés de manière spécifique, nous sommes donc des prisonniers politiques. Et donc, nous allons sur le terrain de la propagande et de la discussion avec l'État français. Et en même temps, il y a la réalité qui est que, oui, ces phénomènes de radicalisation, et c'est le livre de Farhad Khosrokavar qui le montre très bien, hein, des années 90, que ce phénomène de radicalisation existe dans les prisons comme le phénomène de renforcement de la délinquance. Les prisons comme espace social total et de sûreté conduisent justement à ces phénomènes de radicalisation, que ce soit dans la criminalité ou dans le terrorisme. Donc là, on est dans quelque chose d'inhérent à ces espaces de sécurité. Maintenant, la question qui se pose aussi, c'est comment gérer finalement, et est-ce qu'on peut gérer de la même manière, quelqu'un comme les frères Kouachi ou Monsieur Koulibaly, qui justement étaient déjà largement inscrits dans cette radicalisation, et des personnes qui décident de partir en Syrie, mais qui finalement s'arrêtent en Turquie, sont reprises, sont ramenées en France, et là, rentrent finalement dans un processus. Et c'est toute la difficulté de la lutte contre le terrorisme, c'est peut-être là où les autorités publiques, voire certains experts se trompent, c'est de considérer que tout le monde est pareil.
Il n'y a pas de typologie.
Il n'y a pas de typologie, il peut y avoir des points de rencontre entre différents profils, mais la question du profilage et la question des grandes cases, finalement, pour traiter telle ou telle radicalisation, pose problème. On le voit au Danemark, on le voit en Espagne, et juste pour conclure, sur l'Espagne, pourquoi est-ce que l'Espagne avait déjà mis en place ces programmes? C'est parce que ces programmes sont issus de la lutte contre l'ETA, et on avait un véritable travail, justement, au Pays Basque, sur la déradicalisation, notamment des jeunes, qui rentraient dans des mouvements de jeunes qui se radicalisaient, et qui ensuite passaient à l'étape supérieure avec l'ETA. La France n'a pas connu ce type de radicalisation, et n'a donc pas eu cette expérience.
Alors, on dit difficile pour les services de renseignement de suivre des apprentis djihadistes s'il n'y a pas de typologie.
Ah mais tout à fait, ben, chaque cas est différent. Et d'ailleurs, vous avez cité les frères Kouachi et Koulibaly, ils étaient tout de même différents, même s'ils avaient eu un parcours commençant par la petite délinquance, mais c'est le parcours, je dirais, quasi-classique. Mais ensuite, c'était totalement différent.
Mathieu Guider, allez-y.
Oui, on n'a pas de profil, ça on le sait. On a de tout là-dedans, on a de la petite délinquance, on a des brigands, on a des islamistes convaincus, des djihadistes, il y a de tout. Donc effectivement, la question de la personnalisation des parcours est fondamentale, personnaliser à la fois la diagnostic initiale et personnaliser, bien sûr, le parcours de déradicalisation.
Vous avez travaillé sur ces questions de réhabilitation. Quels sont les résultats de vos recherches?
Alors aujourd'hui, on a en gros trois types d'approches dans le monde. Il faut savoir que depuis 2001, la quasi-totalité des pays qui ont été touchés par le phénomène, qui avaient détecté des djihadistes, en met des programmes. On a une approche plutôt pays musulmans avec centralité de l'Arabie Saoudite, qui est une approche doctrinale, dite l'approche doctrinale, c'est-à-dire on fait de désendoctrinement, on s'occupe de la doctrine de l'individu, on essaie de convaincre, de changer son idéologie.
Donc on remet le djihadiste devant un imam.
Voilà, devant un imam ou devant une autorité, et on le discute jusqu'au bout ses convictions, et on lui montre qu'il a tort, et on finit, comme il est sur la conviction religieuse, eh bien, on finit de changer sa conviction. Puis vous avez une deuxième approche qui est l'approche plutôt comportementale, qui est plutôt l'Asie du Sud-Est, avec comme modèle phare Singapour, qui essaie de dire on ne touche pas aux croyants, ce n'est pas notre problème. Singapour est une démocratie, mais par contre, l'individu doit se comporter de façon sociale. Il ne doit pas avoir de comportement agressif ni violent. Il doit rentrer dans un respect du contrat social et des lois. C'est l'approche. Puis vous avez une approche mixte, qui est plutôt l'approche des pays nordiques, qui associe à la fois une discussion avec les communautés, qui délègue au milieu associatif la discussion d'éducation et qui, en même temps, elle a des acteurs judiciaires, des acteurs de la police du renseignement qui vont travailler sur la question du comportement et des attitudes. Voilà. On a ces trois-là. La France hésite entre ces différentes approches. On a mis un milieu associatif. Pour l'instant, on a deux expériences, si vous voulez, d'encadrement de ces choses-là. Mais on n'a toujours pas véritablement une vraie politique structurée autour d'un objectif commun et une coordination.
Est-ce que, allez-y Alain Rodier, vous voulez rebondir?
Oui, juste une chose qui me gêne un petit peu dans ces approches, c'est que, bon, moi je suis assez ancien pour avoir connu les camps de rééducation communistes. Tout le monde faisait sa prière communiste, mais une fois qu'ils étaient libérés, heureusement, ils pouvaient retrouver leur libre arbitre. Donc il faut faire très attention à pas avoir une évolution dans ce style-là, parce qu'elle serait totalement inefficace, parce que l'individu va dire oui, je suis bien d'accord, mais une fois qu'il est sorti, c'est terminé.
Mathieu Guider, la question centrale n'est-elle pas la question sociale, celle de la fracture au sein de pays occidentaux entre la population musulmane et le reste de la population? Comment on soigne ça?
D'abord, je ne suis pas d'accord du tout sur le fait que la fracture, elle est entre la population musulmane et le reste de la population. L'écrasante majorité de la population musulmane, tout simplement des Français, sont d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ne descendent pas dans la rue, qu'ils ne veulent pas être labellisés musulmans. Vraiment, toutes les enquêtes le prouvent. L'écrasante majorité ne veulent même pas être musulmans de France, c'est-à-dire ils ne veulent pas être appelés. Comme les juifs d'ailleurs, ils ne veulent pas être appelés juifs de France, ils veulent être français avant tout. Et donc on a vraiment une responsabilité majeure aujourd'hui de dire que les individus qui font ces actes, même s'ils se réclament de l'islam, n'ont strictement rien à voir avec les communautés musulmanes.
L'auteur du rapport qui a été remis récemment au gouvernement français sur les luttes contre la radicalisation, Pierre Conessa, insiste sur l'importance de la classe moyenne musulmane pour lutter justement contre ces processus de radicalisation. C'est ça la clé?
Tout à fait. Je connais très bien Pierre Conessa et c'est la clé. Aujourd'hui, nous avons une classe moyenne musulmane, j'insiste encore sur le fait que je ne refuse de la qualifier de musulmane, qui est intégrée et qui veut faire son ascension sociale, qui veut vraiment s'intégrer totalement à la République. Il faut vraiment s'atteler à cette minorité qui se réclame de l'islam et la cibler spécifiquement pour éviter, un, la stigmatisation et deuxièmement, qu'elle devienne le porte-parole d'une communauté qui ne veut même pas être communautarisée.
Antoine Mégis, sur la question sociale.
Alors, justement, pour reprendre ce qui est dit, c'est-à-dire refuser cette idée que, finalement, il y aurait une séparation entre les musulmans et les autres, et de tout ce qu'on vient de dire auparavant, c'est aussi la situation internationale qui vient nourrir ces discours. Donc, peu importe qu'on soit musulman, hindouiste, ou qu'on croit à une idéologie politique ou religieuse, c'est les événements, et on le voit bien dans les discours de propagande. On va chercher les événements, la dette de sang, c'est des termes qui sont utilisés, partout dans le monde pour justifier telle ou telle action. Donc on est bien au-delà de la question de la séparation religieuse dans une société comme la France. On est aussi dans l'instrumentalisation d'une situation internationale et de la géopolitique internationale.
Et on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions de Géopolitique le débat. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci Alain Rodier, Mathieu Guider, Antoine Mégis. Merci à Nathalie Laporte qui assurait la réalisation. La semaine prochaine, vous retrouvez Marie-France Chatel.